9h15, hier aux États-Unis, on a autorisé un nouveau médicament contre l'Alzheimer. Il faut mettre plusieurs bémols, mais quand même, quand une maladie touche énormément de personnes, dès qu'il y a une découverte ou l'approbation d'un médicament, il y a beaucoup de gens qui vivent d'espoir. Et avec cette nouvelle aux États-Unis, il faut être extrêmement prudent parce que, je dirais que dans la communauté scientifique, on est loin de penser que c'est une révolution qui est en train d'arriver. J'en parle avec Dr. Jude Poirier, qui est professeur de psychiatrie à l'Université McGill. Dr. Poirier, bonjour.
Bonjour, M. Arcand.
Alors, parlez-moi de ce médicament. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un médicament pour contrer les symptômes, pour ultimement avoir un effet sur la maladie comme telle? De quoi on parle?
Bon, écoutez, c'est le premier d'une nouvelle famille de médicaments qui essaie de s'attaquer aux changements biologiques les plus importants associés à la maladie, en espérant, j'utilise bien le mot, espérant qu'on va ralentir et peut-être même stopper la progression de la maladie. Mais c'est un médicament qui a connu, un parcours assez pénible et sinueux. Et je vous avouerai qu'hier, pour beaucoup de scientifiques comme moi, c'était une surprise que ce soit approuvé.
Pourquoi c'est une surprise?
Bien, je vous donne l'exemple. Vous savez, au FDA, historiquement, il faut que vous passiez deux études positives de phase 3. Donc, l'étude d'approbation, ça en prend deux, puis il faut que les deux vous disent que le médicament fonctionne dans les deux cas. En mars 2019, la compagnie nous annonce, les études ne sont pas finies, puis ils nous disent qu'ils arrêtent le programme parce qu'une étude intérimaire laisse à penser que ça ne marche pas pantoute. Quelques mois plus tard, dans un congrès international, ils nous disent, vous savez, finalement, on a ramassé nos données, on a tout réanalysé ça, puis ça fonctionne, mais dans une des deux études, puis un petit peu dans la troisième, si on regarde à une dose particulière. Bon, vous savez, nous, quand ça commence à être des choses comme ça, on est un petit peu moins enthousiaste. En novembre dernier, ils présentent leurs données au complet à la réunion du FDA. Les spécialistes du FDA à l'interne, qui sont des statisticiens et certains scientifiques, disent, vous savez, ça a l'air à fonctionner. Les effets sur la mémoire, c'est plutôt modeste, mais c'est là, on le voit. Et on a éliminé un des marqueurs biologiques de la maladie. On l'a réduit de façon significative. Donc, nous, on aime ça. Mais séparément, le FDA fait toujours appel à un groupe de chercheurs indépendants, souvent des chercheurs universitaires comme moi, donc qui n'ont pas d'affiliation avec la compagnie. Et les 10 chercheurs qui ont été assemblés pour faire l'évaluation du dossier, il y en a 9 sur 10 qui disent « Non, non, ça ne vaut pas la peine, il ne faut pas approuver ça. » Et hier, on se fait dire « Non, tout est approuvé. » Donc, vous voyez un petit peu qu'on est un peu surpris par la situation.
Mais si c'est approuvé par un organisme comme la FDA, vous attribuez ça à quoi? C'est un lobby de la compagnie pharmaceutique?
C'est à tous les niveaux. Écoutez, ça fait presque 20 ans qu'on n'a pas eu de nouveaux médicaments. Je peux vous dire que toutes les sociétés Alzheimer, que ce soit aux États-Unis, en Europe ou même au Canada, faisaient beaucoup, beaucoup de lobby pour que quelque chose finalement soit approuvé, donner un peu plus d'espoir que les médicaments qu'on a présentement, qui sont, on va être honnête, pas terribles non plus, mais au moins on a quelque chose pour atténuer les symptômes. Et on souhaitait évidemment l'arrivée un nouveau type de médicament qui, lui, s'attaquerait un peu plus à ce qui cause la maladie ou ce qui, à tout le moins, est impliqué dans le processus de la maladie et pas simplement une amélioration des symptômes.
Vous parlez justement de la rareté de découverte de nouveaux médicaments dans le cas de l'Alzheimer. Sauf erreur, je pense que c'est aussi vrai dans le cas de la maladie de Parkinson. Comment se fait-il qu'on n'arrive pas à trouver des traitements pour ces maladies-là?
Le facteur principal, c'est que ce sont des maladies typiquement humaines. Mes collègues qui travaillent en cancer peuvent donner un cancer à une souris, travailler sur des médicaments, et après ça, transposer ça à l'humain sans problème. La même chose avec le cardiovasculaire. On a tous développé ces beaux médicaments-là pour l'hypertension, pour le diabète, en travaillant avec les animaux. L'humain est le seul à avoir la maladie d'Alzheimer. Même les très grands singes, qui nous ressemblent beaucoup physiologiquement, ne développent pas la maladie d'Alzheimer. Donc, on travaille avec des approximations, que ce soit animales ou cellulaires. Mais d'autre part, ce qui est un peu agaçant, c'est qu'on a développé des modèles, je vous dirais, de travail, de souris, mais on s'est fortement des maladies dites ou de la forme dite familiale, jeune, agressive, génétique. Donc, une forme extrême d'Alzheimer qui guide un peu nos travaux de recherche, alors que les gènes impliqués dans la forme jeune, ben, ils ne sont pas défectueux du tout dans la forme commune que vous et moi nous connaissons.
Donc, c'est vraiment pour une minorité de patients, c'est ça?
Ben, écoutez, je vais même vous expliquer un tout petit peu.
Oui.
Avant même de vous qualifier pour recevoir le médicament, vous allez devoir passer un scan du cerveau, TEP. Il coûte entre 3 et 5 000 $ et déjà, les compagnies d'assurance aux États-Unis ont dit qu'ils ne payeraient pas pour ça. Donc, vous devez avoir un signal positif pour pouvoir recevoir le médicament. Donc, ça vient à vous de payer ce signal, ce scan. Et s'il est négatif, ben c'est bien de valeur, mais vous n'êtes pas éligible pour avoir le médicament. Et il va être attribué seulement aux gens en début de maladie.
Okay.
Ça ne fonctionne pas chez les gens chez qui c'est déjà commencé. Donc, on parle d'un sous-groupe de sujets.
OK. En parallèle à votre connaissance, sans que ces médicaments-là ou ces traitements-là aient été autorisés, est-ce qu'il y a de la recherche qui donne un certain espoir, qui laisse entrevoir qu'un médicament peut-être ou un traitement pourrait être approuvé bientôt?
Je dirais, on le souhaitait il y a 3 ans parce qu'on avait beaucoup de choses.
Ouais.
En 2018, on fait un bilan et il y avait plein de choses, comme on dit, dans le pipeline, dans le jargon scientifique. Et depuis 2018, il y en a 14 qui ont échoué les uns après les autres. Et celui dont on parle ce matin, il est passé, mais vraiment sur la ligne du fil d'arrivée. C'est très difficile et je vous cache pas, on a développé plus de 165 médicaments depuis 2003 qui se sont rendus jusqu'à la toute fin. Là. Les études de phase 3 qui coûtent 500 ou 600 millions de dollars, ils ont tous échoué. Tellement même qu'il y a 3 grandes compagnies pharmaceutiques, et ça inclut notre Pfizer, dont on entend parler beaucoup ces temps-ci, qui ont abandonné la recherche sur l'Alzheimer après y avoir englouti des milliards de dollars.
Et c'est pas parce qu'il n'y a pas de patients, que ce n'est pas une maladie orpheline, c'est pas une maladie qui touche peu de gens. Là. Ça veut dire à quel point c'est compliqué de trouver quelque chose.
Exactement. C'est très difficile. Ouais. C'est très difficile de l'étudier à l'extérieur de l'humain. Mais je ne peux pas demander à un de mes sujets, pouvez-vous me donner un petit bout de cerveau de son vivant? On travaille avec les gens qui sont décédés de la maladie. On a des cerveaux. On a une belle banque de cerveaux à l'hôpital où je travaille. Et mais je compare toujours ça un peu à une partie de baseball. J'ai le diagnostic Alzheimer. Mon monsieur, il y avait tel changement biologique dans son cerveau, mais c'est comme si j'arrivais à la 9e manche dans une partie de baseball. Qu'est-ce qui est arrivé entre la première et la 9e manche? Il y a 22 000 scénarios pour arriver au score de 9-1. Et travailler avec la fin, ça ne va pas nécessairement être révélateur de ce qui se passe avant.
OK. Je vais profiter de votre présence. J'ai 2-3 questions, puis je les entends souvent des auditeurs. Mm-hmm. Est-ce qu'on sait maintenant qu'est-ce qui cause cette maladie? Est-ce que c'est relié vous me dites une maladie chez l'humain, mais l'humain, en raison de quoi? Son alimentation, sa prédisposition génétique? Qu'est-ce qu'on sait sur cette maladie-là?
Toutes les réponses ci-dessus.
Oui.
Il y a une composante génétique qui est très, très forte, mais elle n'est pas causative. On dit que 60 à 70 % du risque d'avoir la maladie d'Alzheimer est génétique. Donc, vous avez un parent qui a eu l'Alzheimer, bien, votre risque à vous, il est le double de celui qui n'a pas eu de parent Alzheimer. Déjà, c'est un exemple concret. Donc, 60 à 70 % génétique. Le reste, vous les avez cités, ce sont les facteurs liés au style de vie, la façon ou les choix qu'on peut faire dans notre vie, tant au niveau, vous avez mentionné l'alimentation, l'exercice, je sais que les gens sont tannés d'entendre ça, mais c'est les mêmes facteurs de risque pour les maladies cardiaques, mais aussi les facteurs de risque liés à la santé vasculaire. Je vous donne des exemples concrets, le diabète, l'hypertension, un taux de cholestérol élevé, ce sont tous formellement des facteurs de risque de maladie d'Alzheimer aujourd'hui. Autant que ça en est pour les maladies cardiaques, c'est juste que si vous survivez l'âge à lequel vous risquez d'avoir une maladie cardiaque, puis vous passez au travers sans maladie, ben, il y a une deuxième maladie qui vous attend un petit peu plus tard dans la vie.
Et est-ce qu'il existe des tests, ça va peut-être vous paraître bizarre comme question, là, mais pour savoir si je suis prédéterminé à avoir l'Alzheimer?
En fait, vous parlez à un de celui qui a co-découvert le gène principal d'Alzheimer des années 90. Oui, il en existe. Des tests génétiques qui nous permettent de déterminer si vous êtes à bas, moyen ou à très, très haut risque d'avoir la maladie d'Alzheimer. Et là, je parle de la forme commune. Là, je ne parle pas des formes génétiques, mais bien la forme commune. Mais en plus de ça, depuis environ 4 ou 5 ans, on a mis au point, chez moi, mais aussi un petit peu partout à travers le monde, des nouvelles techniques d'analyse de certains biomarqueurs qu'on mesure soit dans le liquide céphalo-rachidien, quand on fait une ponction lombaire, puis on va chercher du liquide dans le cerveau, ou même, très récemment, là, depuis un an, on a des tests sanguins très fiables qui nous permettent non seulement de voir qui est à risque d'avoir l'Alzheimer dans les mois et les années qui viennent, mais on peut même suivre la progression avec des changements biologiques, ce qu'on n'avait pas là, il y a à peine 5 ans. Donc, il y a beaucoup d'avancées scientifiques du côté de la compréhension de la maladie, mais ce n'est pas accompagné malheureusement avec des avancées du côté de la thérapie.
Et quelqu'un qui se fait dire qu'il a, il est prédisposé à avoir la maladie, ça veut dire quoi? C'est qu'on lui dit, t'as intérêt à modifier ton style de vie, à...
C'est ça, tout hein? à fait, exactement. Ouais. En fait, je travaille, moi, avec 425 enfants d'Alzheimer qui font partie de ma cohorte, on les appelle les gens de la cohorte de prévention. Et les premières réunions qu'on a, puis l'interaction que j'ai avec mes participants, c'est de leur expliquer, voici les facteurs de risque connus. Vous avez un taux de cholestérol élevé, là, on ne peut pas laisser ça de même. Vous faites de l'hypertension, puis vous dites, bah, j'ai pas de symptômes. Vous pouvez pas laisser ça comme ça. Vous êtes sur le bord de faire un diabète, il faut s'en occuper. La beauté, c'est que beaucoup de ces facteurs de risque liés à nos choix de vie, nos styles de vie, eux, ils ont des traitements. L'hypertension, le diabète, le cholestérol, on est heureusement bien équipés pour gérer ça. Donc, il y a la partie, j'appellerais pharmacopée. Et il y a aussi l'exercice, l'alimentation. Les gens disent, bon, docteur Béliveau encore, mais ce fois-là, il porte le chapeau à Alzheimer. Ben oui, mais ça marche. Ça marche pour le cancer, ça marche pour les maladies cardiovasculaires. Puis ça fonctionne aussi très, très bien pour la maladie d'Alzheimer. Bon, ça ne va pas empêcher l'Alzheimer, mais ça peut peut-être la reporter. On le vit avec l'alimentation et l'exercice. Ça peut reporter de 2 ou 3 ans l'arrivée d'une maladie dans des grandes études épidémiologiques. Ben, vous savez, on a fait des simulations statistiques. Si on reporte la maladie d'Alzheimer de 5 ans, juste 5 ans, l'arrivée de la maladie, ben, vous allez éliminer 50% de tous les cas à travers le monde en une génération. Donc, c'est une maladie de personne âgée, hein, c'est une maladie de fin de vie. Donc, on dirait pas, on n'aurait pas ce discours-là si on parlait d'une maladie du genre dans la quarantaine, mais c'est ça la situation épidémiologique. Donc, si on la reporte ne serait-ce que de 5 ans, on enlève la moitié des cas. Et ça, ben, c'est possible en faisant des ajustements de style de vie et en ayant des bonnes habitudes, autant alimentaires que d'exercice, puis on contrôle nos facteurs de risque qui sont maintenant bien connus.
Docteur Poirier, merci beaucoup de votre temps. Bien gentil à vous. Au revoir. Docteur Jude Poirier, professeur de psychiatrie à l'Université McGill, directeur du Centre d'études sur la prévention de la maladie d'Alzheimer, donc la Food and Drug aux États-Unis, l'équivalent de Santé Canada, qui autorise ce nouveau médicament, mais qui est accueilli assez froidement par la communauté scientifique. Je faisais rapidement le tour hier et la conclusion, c'est qu'on n'est pas capable vraiment de trouver un médicament pour traiter la maladie. Et ça fait 20 ans qu'il n'y a pas eu de médicament nouveau approuvé malgré tous les efforts et tous les investissements. 9h29.